sous son temps, deuxième mariage ébouillé, garde alternée, inscrit sur Mythique, sur Tinder, développement personnel à gogo, séance d'hypnothérapie en veux-tu, en voilà.
CO2, mon amour.
Tous les matins, je visionne des vidéos sur YouTube pour redevenir un mâle alpha. Le samedi, je m'habille en tri avec un arc et des flèches et je cours après Bambi.
Denis Chessou.
Il y a quand même un problème.
Sur France Inter.
Bah ça va être les deux Sèvres, mais avec l'homme que vous avez entendu, Yannick Jelin, oui, du côté de Pougnérisson. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine très, très nature, une émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, donc CO2 mon amour, avec Clément Berman à la technique. Et nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès et c'est Jérôme Boulet qui la réalise. Et c'est quand même une des rares émissions de France Inter qui vous parlera pas du film de Christophe Honoré. Ça va vous reposer, donc c'est dimanche. Moi, je vous inciterai plutôt donc à aller voir justement au Bouffe du Nord Yannick Jelin. Donc on va en reparler parce qu'il fait un spectacle absolument formidable et vous me remercierez si. Il y a ceux qui s'en fichent et qui vivent heureux. Après moi la sécheresse, après moi le déluge, et ne m'emmerdez pas tant qu'il y a des canons à neige, on pourra toujours de la luge faire un petit peu. Alors on le sait, on a déréglé le thermostat de la planète, et puis pas qu'un peu, hein. Il y a ceux qui prient le bon Dieu, s'il vous plaît, remettez-nous tout cela à l'endroit. Et il se dit l'homme. Ouais, bah Dieu a joué au dé et puis il a un peu perdu quand même avec. Il y a ceux qui s'allongent sur les places et se font royalement engueuler par une ancienne ministre qu'on a connue plus inspirée. Bon alors on est d'accord avec vous, hein, c'est important le climat. Mais ce serait tellement mieux, vous voyez, une manif qui ne dérange personne. Et à la limite, hein, si chacun depuis son canapé pouvait faire une extinction, rébellion, méditationnelle, avec une préface de Christophe André naturellement, et en silence, eh ben, ce serait très bien accepté. Il y a ceux qui savent déjà tout dans leur pays de misère, qui voient le soleil comme une orange pressée couler sur leurs épaules et qui ont peur que leur ombre elle-même finisse carbonisée. Il y a ceux qui en ont marre de se sentir culpabilisés. Il y a ceux qui aimeraient changer mais qui ne savent pas de quoi le lendemain de leurs enfants sera fait. Il y a ceux qui savent depuis longtemps que la maison brûle mais qui ne savaient pas qu'elle brûlerait aussi vite. Il y a ceux qui ont foi en la science, les géos trouvent tout, qui vont bien nous sortir de là, hein, pas vrai ? Il y a ceux qui ont compris qu'avec l'inertie, ça allait être difficile, avec le climat, de faire ami-ami. Alors il y a ceux aussi qui survivalisent, ceux qui collapsologisent. Il y a ceux qui, en France, dans le monde, continuent de subventionner les énergies fossiles. Ceux qui Europacity, ceux qui agro-productivisent sans relâche. Et bientôt, dans les centres commerciaux, vous aurez encore le droit de prendre le train. Si. Estimez-vous heureux, ça s'appellera toujours une gare. Voilà, ce sera pour le souvenir, pour l'exotisme. Sylvain Tesson, que vous écouterez la semaine prochaine dans CO2 Mon Amour, me rappelait ceci cette semaine. Il disait que le 14 juin 1940, eh bien, les Allemands sont entrés dans Paris, certes. Mais la veille, c'était comme si de rien n'était. Vous aviez de nombreux cafés, des brasseries, des salles de spectacle, tout était plein. Et dans un contexte évidemment différent, hein, c'est différent, mais nous attendons le dernier moment, la baffe, la claque, le mur. Et le cerveau humain, il est ainsi bricolé, on n'est pas complètement fini. Alors fermez les yeux ou bien le déni, ce sont évidemment de bons anxiolytiques, vous allez me dire, après tout. Et les conservateurs auront beau couper les nattes de Greta Thunberg, tout en cramant leurs mailles en classe affaires, bah, il nous faudra quand même tenter de vivre dignement dans l'incertain, écrivait Jacques Chardonne. Alors ne vous inquiétez pas les enfants, d'accord, vous aurez toutes les pièces à refaire, le toit et peut-être même un peu les fondations, dans ce monde si peu durable. Mais dans cette période d'efficace volonté de remettre l'urgence à après-demain, dans cette vente à la découpe du vivant et du reste, même si un jour ils vous font payer l'air, parce que ça peut peut-être arriver, ils ne pourront jamais tuer la lumière, et surtout pas celle qui est en vous. On va débuter, avant de rejoindre Yannick Jelin, donc dans les deux serres, avec notre mot de l'environnement. Bonjour Cynthia Fleury.
Bonjour Denis.
Vous êtes toujours professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers. On s'intéresse aujourd'hui au mot commun. La notion de commons, hein, que l'on traduit par commun en français, alors c'est une vieille notion du Moyen-Âge. Qu'est-ce que cela désigne au départ ?
Ça désigne les terrains communaux, hein, dont jouissent gratuitement les paysans, mais dès le XIIIe siècle, l'enclosure des communs qui s'est développée.
On va traduire ça par la privatisation, l'enclosure.
Exactement. évidemment, et qui n'a cessé d'ailleurs par la suite de se répéter sous diverses formes. Dans la mesure où quoi ? Dans la mesure où l'exclusion des usagers des terrains communaux constitue quoi ? Constitue le nerf de la domination d'une classe sur les autres.
Et donc la question des droits d'usage sur la terre est centrale pour les sociétés les plus pauvres.
Oui, parce que ceux-ci, en fait, leur permettent d'assurer leur survie. Alors après, qu'est-ce qui va se passer ? Un armistice est trouvé en 1215 avec la Grande Charte et avec la Charte des forêts, fondant en fait les premiers droits politiques, économiques et sociaux, dont l'usage de ces fameux commons, de ces terrains communaux.
Mais il existe aujourd'hui de nouvelles enclosures, de nouvelles privatisations, et les biens communs sont régulièrement mis en danger par cette dynamique de confiscation et d'expropriation.
Alors la fin des années 60 a vu la controverse sur les commons et leur gouvernance revenir. Économiste de renom, Gareth Harding a publié un texte. On est en 1968 dans la revue Science, The Tragedy of the Commons. Et dans ce texte, il va poser que la gratuité et la liberté totale d'accès à un commun conduit nécessairement à sa disparition par le biais de la surexploitation des ressources naturelles qui y sont et de leur manque d'entretien.
Alors Harding délibérément quand même travestit la notion de commun en oubliant que les communs ne sont pas seulement des ressources naturelles en accès libre, mais aussi un mode de gouvernance qui est quand même très spécifique.
Oui, et porté par des gens soucieux d'établir un accès équitable et durable aux dites ressources.
Alors, des décennies plus tard, dans les années 90, Elinor Ostrom, donc une femme prix Nobel d'économie, reprend le flambeau des communs.
Oui, alors elle va montrer quoi ? Elle va montrer que l'ère de l'inappropriable est désormais tout aussi importante, voire peut-être même plus, pour la régulation de la justice socio-économique que la notion de propriété qui a jusqu'alors orchestré le monde du capitalisme.
Alors on voit que c'est un véritable changement. Et donc elle distingue les biens strictement privés des biens communs publics.
Exactement. Alors on va retenir simplement quoi ? Elle va montrer avec quantité d'exemples comment la tragédie de la surexploitation et de l'érosion des biens communs, en fait, elle est nullement inéluctable. Et qui se joue à l'inverse, un processus rationnel, j'insiste, produisant du soutenable, qu'il soit économique, social, environnemental, précisément grâce aux coopératifs, au prendre soin de la terre et des hommes, et à l'imagination active des hommes qui produisent des règles équitables.
Merci à vous, Cynthia Fleury. Et dans quelques instants, donc ça va être notre page nature. Et là, qui j'entends, Iggy Pop. Bah oui, il est pas tout seul, il est avec James Bond. Il prend plus rien du tout. Il est très nature, quasi écolo, Iggy Pop.
She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond.
Du très bon Iggy Pop sur France Inter dans CO2 Mon Amour. J'espère que vous avez écouté, sinon vous le ferez en podcast, donc le spectacle hier soir, donc le concert de Iggy Pop. Bah ouais, c'est ça France Inter, on était là où il faut être. Et là où il faut être aussi, alors là, c'est pas pareil, hein, c'est pour la même actualité, on est avec Yannick Jolin dans les Deux-Sèvres.
On m'a dit, faut que tu viennes dans cet endroit, c'est mythologique. Et je suis arrivé dans cet endroit, effectivement, qui avait l'air d'un endroit d'entraînement pour géants, mais un peu délabré, avec des maisons, avec des cheminées absolument gigantesques, avec des énormes rochers, des chaïs, des chirons de granit, partout dans les champs, et une ambiance particulière. Et donc, dès le lendemain, j'ai commencé à placer une histoire à Pougnérisson, en me disant, oui, que si tu veux parler de l'universel, parle de ton village. C'était déjà le nombril du monde avant moi. Moi, je suis juste un révélateur, un haut-parleur.
En 1986, Yannick Jolin découvre Pougnérisson dans les Deux-Sèvres. Alors là, c'est plus qu'une rencontre, quoi. C'est une histoire d'amour, c'est un coup de foudre. Commune rurale donc du Poitou, qui est sertie dans le granit et qui devient le décor des histoires de notre conteur. Donc on n'est pas très loin de Parthenay, de Bressuire, dans ce qu'on nomme la Gâtine, hein, les terres gâtées, les terres pauvres, et puis vous y faites pousser davantage de vaches, on va dire, que de céréales. C'est une terre, là où on est, c'est une terre catholique granitique, parce qu'on est au nord, et puis vous avez une terre protestante et calcaire qui est au sud. Et c'est là que Yannick Jolin, donc comédien, marchand d'histoire, c'est un gars qui jongle avec l'universel absolument comme personne. Bah c'est là qu'il a posé son sac. Il était venu de Vendée, il a fait un grand voyage. Hein. Vous voyez la Vendée, vous voyez les Deux-Sèvres, bon, c'est pas non plus énorme. Et le récit, le conte est son ADN. Et il règle ses comptes grâce à la vie. Conteur, c'est un des plus vieux métiers du monde, mais homme de spectacle et showman généreux avant tout à voir au Bouffe du Nord. Et là, on part avec lui à Pougnérisson dans les Deux-Sèvres. Pougnérisson. Alors, place de la Benaiserie. On a le château. Et là, on va arriver pas très très loin, à mon avis, du nombril. Ah oui, parce qu'il est là. Bonjour, cher Yannick Jolin.
Bonjour, Denis.
Alors là, on est vraiment au cœur du sujet avec vous, donc dans ce très beau département des Deux-Sèvres, dans la Gâtine, on va y revenir. Mais quand on arrive ici, Yannick, comment on pourrait résumer peut-être en une phrase l'atmosphère ?
L'impression que j'ai eue, la toute première, en trouvant ces ruines de châteaux, d'auberges, avec des cheminées monumentales, démesurées pour l'endroit, ces gros chirons de granit partout dans les champs, j'avais vraiment l'impression d'un terrain de boules, d'un terrain de jeu de géants, oui, qu'aurait abandonné pour une raison en urgence, quoi. Oui. Et ils avaient tout laissé en plan. Ouais, c'est ça, il y a des boules de granit partout.
Et dans ma langue maternelle va mourir, et j'ai du mal à vous parler d'amour, donc votre spectacle, Yannick Jolin, on peut faire un lien avec l'environnement quand même qui nous anime dans cette émission.
Ah oui, c'est un lien qui, moi, m'importe énormément, puisque c'est le lien... Je crois que les langues... En plus, cette année, il se trouve que c'est l'année des langues autochtones. Ouais. Il se trouve que les savoirs traditionnels, la connaissance, l'ethnodiversité, enfin, tout est lié totalement au maintien de ces langues. Parce que forcément qu'un système linguistique, c'est un système où on va expliquer des choses, avoir une forme de pensée, une forme de vision du monde. Quand on perd la langue, on perd le savoir. Et comme on est dans une... La standardisation finalement linguistique va de pair avec l'égalisation agricole du monde entier. Il y a plein de gens qui sont en train de penser que la diversité linguistique va de pair avec la diversité écologique.
Tiens, tu veux monter dans le château ?
Ah oui ?
Il est en train de se réparer juste, et la Fondation du patrimoine est en train de donner des sous là. Bon,
c'est pas de merde.
Oui, oui.
Viens,
tu sais.
Ouais, bah, on va faire un loto alors.
Non, bah, c'est ça, tiens. on était dans les deux ou trois sites des Deux-Sèvres pour ça. Donc on va voir un peu de sous. On sait pas trop parce que visiblement, ça, c'est des clopinettes un peu.
Oui, bon, pas patrimoine. C'est quoi le code de la chaîne pour retirer les cadenas ?
7777.
Ah oui.
On le dira pas.
Hein. On le dira pas. Voilà, donc ça c'était le cadenas et la chaîne qui tiennent l'entrée.
Et puis, on est dans un endroit, il y a plein de couches, toutes ces couches d'histoire, mais qui racontent aussi, Gâtine, c'était regâté, c'était des pays
pauvres, hein, tu sais, la différence avec les Vendéens, c'est le Vendéen est grégaire. Si tu dis à un Vendéen de voter, ils votent tous pareil. Et puis si tu dis de passer par une muse, ben, ils suivent tous comme les moutons. Le mouton est grégaire, quoi. Le Gatinel, c'est pareil, sauf qu'avant, il dit comme un coucoute. Parce qu'il est beaucoup, plus.
Plus près de ses.
Parce qu'il en a moins.
Il en a moins.
Donc oui, il a un peu, des fois.
Combien ça coûte, quoi, il dit.
Ouais, comme un coucoute. Tu fais une traduction, toi, t'es comme pour les
Québécois. Je te traduis, moi, je fais.
C'est vrai qu'on est de la francophonie, nous, on a besoin de faire des efforts. Hein.
Alors là, on est en train de grimper sur les murailles qui ont été retapées.
Ah, monsieur Chessou, vous êtes plus à l'aise sur un vélo qui déraille que sur une muraille de château.
Je suis assez d'accord. Alors là, je ne sais pas si on va voir arriver l'anglais, mais en revanche, on voit arriver, franchement, la Gâtine.
Ouais.
Et là, on va juste rappeler une petite chose, c'est que, en fait, cette Gâtine, c'est un bout du massif américain, là.
Absolument, on est sur du granit pur, parce que la preuve, c'est qu'à un moment donné, ils voulaient même enterrer des déchets nucléaires ici, dans le coin.
Ah oui,
il y avait un
vrai
grand projet ici, parce qu'il y a une plaque de granit qui est sans faille, sans rien du tout.
Ouais, ça a dû chauffer un peu. Hein.
Ça avait chauffé, et c'est sans doute ce qui a provoqué aussi l'envie des gens que, si on dit on refuse ça, alors il faut se débrouiller pour faire autre chose. Donc ça a impliqué aussi plein d'envie de développement, d'une autre façon. Peut-être que le nombril est là,
on
grâce à
parti.
Ça. Ouais.
Et donc les déchets, ils vont les envoyer à Bure.
C'est voilà. Ça.
Dans de l'argile.
C'est ça.
ils ont dû sentir que le tracteur était avec la fourche, c'était pas loin. Quoi. Donc, c'était...
Là, il y avait les tracteurs étaient de sortie tous les jours. Ouais.
Alors, ça n'a rien à voir avec la partie sud du département, parce que sur la partie sud, on est véritablement sur le calcaire. C'est une partie, d'ailleurs, qui est protestante. On voit bien qu'il y a aussi une ligne, d'ailleurs, religieuse et géologique. C'est-à-dire que là, on est sur le granit catholique.
Ouais. Il y avait eu une étude faite là-dessus, liée au comportement en fonction de la géologie. Ouais, et sur le granit, en général, les gens sont plus grégaires, sont plus rassemblés. Et sur le calcaire, plus indépendants, plus éparpillés, habitats éparpillés.
Alors on voit donc des haies, elles ont pas toutes été foutues en l'air, hein. Là,
non.
Loin de là, alors, au contraire ici. Hein.
Il y a une qualité de pays ici, parce que justement, comme il y a plein de gros chailles de granit partout dans les champs, c'est pas des terres qui sont faites pour la culture. Donc forcément que ça peut être que de l'élevage, donc ici on a forcément la partenaise, on a du mouton aussi. Alors il y a quelques endroits où ils ont remembré, mais très peu, donc on a conservé quand même une qualité de nature qui est ici assez exceptionnelle. Et puis... c'est le château d'eau du pays.
Et alors, justement, alors quand même parlons de l'eau, parce que c'est quand même, que ce soit dans les Deux-Sèvres ou ailleurs, on le sait, c'est-à-dire que la clé de demain, c'est bien la flotte. Et alors, on voit bien qu'on est comme sur un modèle qui est toujours le même, qui est toujours le modèle productiviste là-dessus, et donc, problème de ce qu'on appelle les bassines.
Alors là, oui, ça c'est un gros dossier ici, en Deux-Sèvres, Charente, ouais, parce que... on va faire, je crois que c'est 15 bassines.
Donc c'est des retenues.
C'est des retenues d'eau.
Des retenues d'eau.
Où on va pomper dans la Sèvre et on va pomper dans la nappe phréatique pour les remplir. Encore, ça serait du ruissellement.
Oui.
On accepterait.
Oui.
Là, c'est quand même un chantier de 85 millions d'euros pour une trentaine d'agriculteurs. Même si c'est des très gros, sur un modèle très intensif, ça pose quelques petites questions.
Un petit peu, oui.
Et l'avance qu'on prend sur la consommation des richesses de nos enfants, elle est violente quand même.
Plein dedans.
Ouais.
Voulez-vous, cher Denis, que je vous tende la main pour que vous ne tombiez pas avec vos chevilles ?
Il faut dire que j'ai le magnétophone dans une main, il faut quand même que je prenne un appui.
Et un parapluie dans l'autre.
Et un parapluie dans l'autre, voilà. Et donc, pas loin, il y a le marais Poitevin aussi.
Oui, ici, il y a la source de la Sèvre Nantaise et la source du Thouet, qui sont vraiment dans le coin là. Parce qu'ici, en Gâtine, c'est vraiment un château d'eau. C'est vraiment un endroit très important. Il y a plus de précipitations que sur le calcaire, bien sûr. La température est plus froide aussi, en général, ici en Gâtine, même si aujourd'hui, ça ne se sent pas beaucoup. Et c'est un endroit où l'eau est très important. Et cette qualité de nature, ici, cette qualité de palisse, là, les haies qu'il y a partout, fait aussi qu'on ait l'eau de granit, l'eau de ruissellement. C'est magnifique, ici. Mais après, la descente vers les bassines, la descente vers les pompages de plus en plus importants et vers le marais Poitevin, qui est un endroit fragile parce que c'est un endroit en dessous du niveau de la mer. Donc, il y a besoin d'avoir un niveau d'eau haut pour les gens du marais, du tourisme, etc. Il y a besoin d'un niveau bas pour les mecs de l'agriculture intensive de maïs. Il y a donc des besoins totalement... au vapeur.
Elle va pas. Elle va pas.
Donc, je suis au marais Poitevin, je ne sais pas ce qu'il va rejeter d'ici quelques temps, de toute façon.
Ouais.
Et puis, par exemple, l'autre problème du Thouet aujourd'hui, enfin, c'est un problème de toutes les rivières françaises, je crois, c'est qu'il y a à peu près une retenue tous les 800 mètres sur le Thouet. C'est beaucoup.
Ah, oui.
Parce qu'il y avait beaucoup de moulins ici.
Oui, bien sûr.
Donc, les moulins,
c'est
donc,
une rivière travailleuse, quoi.
Les chaussées de moulins.
Bien sûr.
Les moulins ne fonctionnent plus, mais les chaussées sont toujours là. Et pour les propriétaires des rives
ce sont des, ce qu'ils appellent du patrimoine. Il est hors de question de toucher leur patrimoine. Donc il y a de plus en plus d'associations qui se mettent ensemble pour qu'on ne touche pas leur patrimoine. Donc cette idée de libérer l'écoulement des eaux, etc., bah, tu en brèches par plein de raisons, d'abord égoïstes, quoi.
C'est-à-dire qu'on veut avoir son plan d'eau comme on l'a connu quand on était petit, mais qui évidemment n'était pas une chose qui était naturelle. Et maintenant, on réclame à juste titre d'avoir un bon état écologique des eaux. Donc ça veut dire une ouverture des rivières pour que ça puisse brasser. Et c'est là que ça gueule, quoi.
Ouais, alors après, ça fait des choses en plus aberrantes, puisque les collectivités publiques sont obligées de désembourber. On avait de la casse Porto là, vers Parthenay. Il faut mettre plus d'1 million, 1,5 million pour désembourber des eaux, s'il y avait un écoulement. Mais en même temps, s'il y avait un écoulement, il n'y aurait sans doute pas la belle rivière pour pouvoir faire du bateau un peu en été. Donc pour le tourisme, ça serait handicapant. Donc il y a plein de raisons contradictoires dans tout ça. Et c'est tout le problème
de l'être humain
et de la vie écologique aujourd'hui. C'est-à-dire que les intérêts étant totalement contradictoires.
Nous ne sommes que ça, voilà. Ouais. Donc,
Alors certains exploitants, on le sait, donc, qui regardent au-delà de l'horizon, ont déjà très bien compris. Hein, ils ont varié leur culture, leur système d'exploitation, ils ont choisi d'autres chemins. Puis vous avez d'autres quand même qui sont un peu plus rigides et qui suivent aveuglément les directives auxquelles ils ont toujours obéi. Au maïs, il faut de l'eau, on en trouvera. Et là, moi, j'ai envie de revenir là-dessus, parce que on est face à des méga réserves d'eau qui vont pousser tout autour du marais et qui ont vocation à pousser partout sur l'hexagone. Alors attention, hein, ça n'a rien à voir avec des retenues collinaires qui se rempliraient, on va dire, gentiment, en détournant donc un peu d'eau du ruisseau quand il est à plein débit. Non, là c'est du lourd, c'est du costaud, c'est de l'eau qui est pompée directement dans les nappes phréatiques pour remplir des choses qui font entre 5 et 20 hectares, c'est-à-dire en fait des cratères. Alors moi je me tourne vers Julien Leguet, qui est donc le porte-parole du collectif Bassine Non Merci. Et en fait, Julien, vous avez rien contre des retenues, mais pas ces monstres, hein, qui n'ont rien à voir avec une transition durable de l'agriculture. Bonjour à vous.
Bonjour Denis. Bah oui, non, c'est le gigantisme de ces ouvrages qui est vraiment questionnant. Comme tu disais bien, c'est des cratères, hein, c'est complètement artificiel. On creuse 5 mètres en profondeur dans de la roche mère, dans de la roche calcaire, qui n'est pas étanche, où l'eau normalement s'infiltre. On fait des digues de 12 mètres de haut. Et puis, comme la roche n'est pas étanche, on met de la bâche plastique sur tout le fond. C'est des centaines d'hectares là qui sont menacés d'être plastifiés dans les années qui viennent. Et puis, comme ça ne se remplit pas avec l'eau qui tombe dedans, pour la remplir, il faut aller piller la nappe phréatique. Et cette nappe phréatique, normalement, c'est elle qui devrait normalement remplir les rivières, donner l'eau au marais pendant toute l'année. C'est elle qui devrait être sacralisée pour faire l'eau potable. Et c'est cette eau qu'on propose de vider en hiver pour remplir ces bassines. Et très clairement, là où c'est très questionnant, c'est la question de quelle agriculture on soutient avec ce modèle-là. Évidemment, on sait que pour faire pousser des légumes, il faut de l'eau. On sait aussi que pour faire pousser des mogettes, il faut un marais. Le maraîchage, c'est dans les marais. Et ce projet, aujourd'hui, il remet complètement en cause le cycle de l'eau normal, de la source vers la mer.
Et c'est un projet, en fait, qui est parti sur les besoins agricoles et pas du tout sur ce que le milieu peut donner.
Eh bien, c'est bien là que le bât blesse, en effet. On est tout à fait les exploitants actuels qui font la céréale intensive et du maïs, etc., savent très bien leurs besoins. Ils sont capables de les quantifier, mais on n'est pas capable de quantifier ce que le marais, les rivières et les nappes phréatiques sont réellement capables de fournir. Et donc là, l'État, l'agence de l'eau, les financeurs proposent de capter de l'argent public pour faire ces bassines, pour capter de l'eau publique, de l'eau qui est un bien commun, au profit d'une agriculture qui répond absolument pas aux attentes sociétales actuelles.
Alors, 60 millions aujourd'hui pour 16 bassines pour 200 exploitants, ça c'est le début, parce qu'il y a 60 autres projets, mais là ça va être partout, donc en France, autour de 60 rivières et de leurs bassins. Donc ça va y avoir un changement, mais très important.
C'est un programme national qui a été confirmé par Didier Guillaume cet été. En effet, le Marais Poitevin aujourd'hui est la zone test, et depuis 10 ans, parce que des bassines on a déjà dans le sud Vendée, et on voit bien ce que ça donne, les rivières elles sont à sec en hiver, ça installe durablement l'agriculture intensive, il n'y a plus de haies, il y a des exploitations de plus en plus grosses, il y a Pionnier et les semenciers qui viennent faire leurs expériences, et il y a le port de la Palisse qui est à côté, donc c'est vraiment, on est au cœur du système, et au cœur du système qu'aujourd'hui devrait être complètement remis en cause au vu des enjeux mondiaux aujourd'hui conscientisés, les rapports du GIEC, etc.
Et en fait, on continue sur le même système.
et on continue sur le même système. Et en fait, les porteurs de projets, c'est assez comique, ils parlent de sécuriser l'eau. Et mais c'est donc sécuriser l'eau à définition agricole. Et comme on dit souvent, dans ce projet de bassine, non seulement on fait couler les rivières à l'envers, il n'y a plus de crues en hiver pour accueillir dans le marais les oiseaux migrateurs, il n'y a plus de prairies en herbe pour que les brochets se reproduisent dedans. Et donc l'eau coule à l'envers, mais de manière générale, c'est l'agriculture qui est faite à l'envers. On fait pousser des légumes sur du caillou.
On l'a compris.
On nourrit des vaches avec du maïs, du maïs en silage, alors qu'une vache, ça mange de l'herbe.
Merci beaucoup, Julien, pardonnez-moi. On va rejoindre, parce qu'on est toujours un peu serré, on va rejoindre donc Yannick Jolin. Grand merci à vous, Julien Leguet. On a bien compris. Et on retrouve les informations sur le site de CO de Mon Amour sur France Inter. Toujours ardente et bonne pianiste, Jeanne Chéral, c'était Le Feu aux Joues.
CO2, mon amour.
Moi, je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie, je vous assure, c'est vrai. Tiens, si je vous disais qu'il n'y a rien que j'adorais plus que les longues chevauchées solitaires dans les grands espaces verts.
Denis Chesson.
La communion intime avec la nature, l'extase des sens, un sentiment grisant de liberté, l'osmose quoi.
Sur France Inter.
On va retrouver donc Yannick Jolin, qui est plus Big Bang mythologique, vous allez le comprendre, que Bling Bling. Donc on se retrouve dans ces Deux-Sèvres à Pougny-Hérisson. C'est pas quelqu'un qui est exactement dans la norme du modèle productiviste. Hein. Si vous voyez donc Pougny-Hérisson, 350 habitants, c'est une utopie culturelle assez géniale en milieu rural. 6 emplois à temps plein, des projets sociaux, des résidences d'artistes et donc notre Yannick pour animer tout ça.
Donc là, on va se diriger vers le jardin.
Passage du nombril, la cour du cordon.
Alors là, Là, ça s'appelle le cordon, justement, parce que c'est le cordon médical, bien sûr, les nombrils, mais c'est l'idée d'un endroit collectif, un endroit à la fois artistique, puisque en été, on fait des spectacles dedans, mais c'est un endroit aussi pour les gamins. Quand on accueille toutes ces classes, il y a du travail qui se fait, ils viennent à la journée en général. Et puis, c'est un endroit social aussi, où on peut faire des rassemblements de plein de choses.
Alors là, je frappe sur un arbre. Je frappe sur un arbre.
Monsieur Jessoux, vous êtes toujours des fétistes, mais vous voyez qu'il y a des propositions ici à Pune pour arriver à relancer la croissance des arbres en métal avec tous les déchets.
Avec tous les déchets, vous avez fait un arbre. C'est ça qui est bien, avec plein de plaques de tôle diverses et variées. Et ça a de la gueule. Ça a de la gueule au milieu des autres arbres. Ouais. Voilà, on est face à ce fameux nombril du monde.
Ça, c'est le rocher qui marque l'épicentre de ce qui a été un moment très important de la vie de la Gatine, qui est le Big Bang mythologique, qui est un peu moins connu que l'autre. C'est-à-dire que toutes les semences d'histoire qui ont été propagées sur la Terre pour fabriquer les mythologies, tout ça, ça vient de Pouniérisson.
Grâce
à ça. C'est ce rocher-là, qui est un peu, il ressemble au rocher de Delphes.
Ah oui, j'avais pas pensé à Delphes.
Bah si, bien sûr, forcément. Et là, il y a les quatre points cardinaux et c'est dirigé vers le nord parce qu'on est la seule commune de moins de 400 habitants qui est jumelée avec l'étoile polaire.
Ah oui,
ouais.
Ah oui, bien sûr.
Le jumelage est fait en l'an 2000. On avait rassemblé toutes les délégations des autres nombrils du monde parce qu'on est le siège aussi de l'Association mondiale des nombrils du monde. Donc on est lié à Delphes, le Ayers Rocks, le Mont Ararat, Jérusalem, Cusco... Rapa Nui, l'île de Pâques, bien sûr.
Pâques.
Et donc, ils étaient tous venus là pour ça. Et tous les ans, normalement, on essaie de les rassembler, mais on a peu de succès au niveau du rassemblement le 1er avril.
Ça marche pas, hein.
Non.
Le 1er avril, c'est voilà.
C'est vérolé. Le 1er avril, monsieur Jessou, c'est vérolé. Il n'y a personne qui y croit.
C'est ça. Oula.
Tu vois, on a déclenché les avions de chasse à parler de choses qui fâchent.
Petite grille.
Ouais.
Alors là, on rentre dans la chapelle.
Chapelle Saint-Georges.
Magnifique. Et là, nous avons... Ce n'est pas des choses de récupération.
Non,
c'est que ça.
Ce sont des machines à tarabuster le minerai de Comte. Ça faisait partie du grand rêve de ce monsieur qui s'appelait Robert Jarry, qui était ce forgeron qui a tout appris dans cette histoire de nombril du monde, qui avait inventé des machines pour secouer la pierre, parce que lui, il pensait qu'il fallait... Il y a des histoires qui reviennent dans ce pays. Il disait, un pays qui n'a pas d'histoire dans son ciel, il ne peut pas survivre. Alors, il faut des histoires. Donc, il savait que le granit, ici, c'est la mémoire du pays. Donc, il essayait de secouer les histoires pour les faire parler.
Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on est dans un pays qui est en train de merveilleusement de massacrer sa biodiversité, en train de laisser faire. Mais, en revanche, ceux qui résistent, ce sont les histoires, ce sont les contes et ce sont les mythes. Ça, on n'arrive pas encore à les dessouder. Hein.
Eh bien, je crois que les légendes mourront avec notre humanité. Parce que, depuis toujours, les humains, ils portent à l'intérieur d'eux des monstres et des merveilles, et on n'arrive pas à se dépatouiller avec. Et la seule manière de se dépatouiller avec, c'est de les étendre dehors, de faire comme le linge, les mettre à sécher sur le fil, et puis de les faire battre aux oreilles des humains jusqu'à la fin des temps.
Voilà.
On dirait une grille de cimetière, ça.
Oui, il y a des vivants, là.
Allez, on ouvre la porte du nombril. Ça, c'est beau comme expression. Ouvrir la porte du nombril.
C'est bien, c'est clair, bien sûr.
Rentrons dans nos intérieurs.
Il fait frais. Ouais, les murs en granit.
Ouais, là, c'était une ancienne hôtellerie. C'est une étape sur la route du sel. Donc, ça veut dire qu'il y avait une garnison, il y avait un monastère, il y avait un très gros château à l'époque. Les châteaux étaient beaucoup plus gros que ça. Alors, ici, c'est le laboratoire d'ombilicologie de John Barney Ferguson et de Robert Jarry, dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est en pente parce que c'est en lien avec l'étoile polaire. Et là, c'est tous les autres nombrils. On les voit tourner, là. Oui. Les différents nombrils avec lesquels on est liés. On essaie de maintenir. C'est pas facile, les jumelages, vous savez, monsieur, de nos jours. Parce qu'il y en a qui sont loin.
Oui, puis il y en a, c'est pas gagné.
Oh, les aborigènes d'Ayers Rocks, on n'arrive pas à les choper tous les jours au téléphone.
Bah non.
L'ambassade d'Irak nous avait répondu l'an passé qu'ils n'étaient pas disponibles.
Oui. Alors là, un tableau, là on est très méthodique, il y a écrit le mythe, le conte, en dessous la légende, la fable, la geste et l'épopée.
Ouais. Oui, c'est toutes les formes de littérature orale, parce que vraiment, encore là, tout à l'heure, quand je parlais des langues, du lien des langues et de la diversité, on est dans une civilisation qui est persuadée
que l'écrit a plus d'importance que l'oral. On a tué vraiment un savoir incroyable, et en plus aujourd'hui, on se dit que finalement, dans cet écrit, est-ce qu'on est si sûr de la fiabilité de l'écrit au cours des siècles ? Entre les copistes qui copiaient de manière différente, entre les traducteurs qui traduisaient de manière totalement aberrante, alors que chez les griots africains, celui qui se trompait dans sa diction des familles et des lignées, lui, il était puni des fois de peine capitale, donc il savait se rappeler des choses. Donc, bien sûr que l'écrit était important, parce que tout d'un coup, l'écrit permettait de donner de l'écho à des choses qu'on fait là, au loin. Alors que l'oral, bien sûr, ne le pouvait pas. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ça. Je pense qu'on peut redevenir une culture beaucoup plus orale, rééquilibrer cette chose-là, et donc rééquilibrer la force et la nécessité de l'oralité, même dans la transmission des savoirs.
C'est pour ça qu'on fait de la radio. Hein.
Absolument, mais ça, c'est sûr que là... Mais on fait de la radio dans le jardin. Dans le jardin, tu vois, c'est un jardin sonore. Et c'est un des seuls endroits en France, je pense, où on met en avant l'ouïe, et non pas l'œil, parce que tous les endroits touristiques qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Mais qu'est-ce qu'on va entendre aujourd'hui dans un lieu touristique ? Ça se fait pas beaucoup. Ticket là-dedans ! Oh là là !
Mesdames et messieurs, laissez-moi me présenter. Yannick Jolin, né et élevé en patois, en dialecte de culture paysanne. Pendant des années, ce fut mon unique langage. Et quand je suis devenu un artiste, un performeur, j'ai voulu ensemencer chacune de mes créations avec cette langue. À cause de cela, j'ai tout de suite su que je ne pourrais jamais dépasser un certain niveau de reconnaissance dans mon milieu artistique.
Un homme qui a autant de profondeur que d'humour, je crois que vous l'avez compris, avec cette phrase hein, qui est la sienne, un pays qui n'a plus d'histoire dans son ciel est un pays qui n'est plus capable de rêver. Alors Yannick Jolin, il nous fraye toujours un chemin hein, de lumière dans le chaos du monde. Et moi, je vous invite à aller le voir aux Bouffes du Nord. Donc c'est à Paris. Hein, les Bouffes du Nord, c'est pas loin de la gare du Nord, avec Causer d'amour. Et puis Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour. C'est formidable. C'est à la fois drôle, c'est humain, c'est génial. Merci à vous Yannick Jolin.
C'est peut-être pour demain le grand feu d'artifice, le bouquet final. Un spectacle enfin digne de l'univers.
CO2, mon amour.
Inutile de retenir vos places, vous serez tous aux premières loges.
Sur France Inter.
Demain, la fin du monde. Oubliez vos fins de mois. Mortel, puisqu'il te faut mourir, tu mourras en beauté.
Denis Chessou.
Mais avant la fin du monde, cette dernière citation, dite par Jacques Bonafé.
Nous n'habitons plus la même planète que nos aïeux. La leur était immense, la nôtre est petite. Bertrand de Jouvenel.
Nous avons préparé cette émission avec Camille Blanès, Jérôme Boulet donc la réalisait. Merci à Pierrick Charles hein, qui a mixé donc ce reportage sur les Deux-Sèvres. Thierry Dupin qui a choisi les disques. On se retrouve nous la semaine prochaine. Alors cette fois ce sera avec Sylvain Tesson. On a laissé un petit peu de temps parce qu'il était un petit peu en promo comme on dit. Sylvain Tesson et Vincent Munier, donc ce sera pour la semaine prochaine. L'Atelier du Montilou, ce sera donc ce soir 19h55. Le Twitter, c'est tout simplement Chessou. Je vous souhaite un excellent week-end.